Il est 7h55 minutes, vous êtes à l'antenne de Boulevard 101. C'est Marceau le matin avec Jeff Fortin et Max Larouche pour aujourd'hui parce que notre ami Yannick Marceau est malade. On suit du coin de l'œil le bilan de session du Parti libéral du Québec. Pablo Rodriguez qui est derrière André Fortin, donc Jacinthe Arel qui est avec nous ce matin. Comment vas-tu? Ah, j'ai pas ouvert ton micro. Et voilà, c'est de ma faute. Vas-y, Jacinthe.
Bonjour.
Hey, on est content de te voir.
Moi aussi.
On est très content de t'entendre. Jacinthe, je veux juste te le dire, quand Pablo va s'avancer au micro, on risque d'aller en direct à la télévision.
Yes.
Écoutez notre ami Pablo Rodriguez qui a plein de choses. Ouais, c'est ça. S'il le fait. Qui a plein de choses à nous raconter ces temps-ci.
Parce que c'est très technique, là, mais comment on présente officiellement le point de presse sur le site de l'Assemblée nationale? C'est point de presse de M. André Fortin, chef de l'opposition officielle, et Mme Michèle Cetlacoué, leader parlementaire de l'opposition officielle. Il n'y a aucunement mention de Pablo Rodriguez, parce qu'officiellement, l'Assemblée nationale, c'est comme pas lui le chef présentement, n'étant pas élu.
Exactement.
Il est sur place, mais est-ce qu'il va vraiment... J'imagine que si les journalistes veulent poser des questions à Pablo Rodriguez, il aurait l'air un peu niaiseux de rester en arrière. Là.
Exactement. Puis là, on est justement là, dans les présentations de base. Là. Max, est-ce que tu veux nous rappeler le breaking news avant qu'on parle avec Jacinthe Varel concernant l'entente avec les médecins omnipraticiens du Québec? Bref, une victoire pour nos médecins dans cette négociation-là.
Oui, l'entente qui est présentée depuis 7 heures ce matin aux membres de la FMOQ et Québec recule sur plusieurs éléments qui étaient pourtant assez centraux de la loi 2. L'application de la réforme qui est officiellement suspendue jusqu'à fin février, là, ça, on en avait déjà glissé un mot hier. Les pénalités financières prévues dans la version initiale du projet de loi 2, ben, c'est abandonné, incluant la coupe de 13% de la rémunération, les pénalités de 10% liées à l'atteinte de cibles de performance, la suppression aussi des suppléments collectifs. Les pastilles de couleur qui sont associées à la vulnérabilité des patients, on retire ça également. Tout ce qui est les articles jugés attentatoires aux libertés fondamentales des médecins, on enlève ça, semble-t-il. L'entente de rémunération actuelle qui est maintenue et même bonifiée de 14,5%, fait que c'est à peu près 434 millions, à quoi on ajoute un montant forfaitaire de 75 millions. Et le gouvernement, donc, propose la prise en charge de 500 000 patients supplémentaires, dont 180 000 vulnérables. La différence, c'est que la mesure sera volontaire, liée à des incitatifs financiers et non pas des pénalités.
Donc, on enlève les indicateurs à la performance pour des incitatifs. Jacinthe Varel, chroniqueuse politique. C'est une victoire sur toute la ligne pour les médecins omnipraticiens.
Ben oui.
On a tout enlevé.
Finalement, c'est...
À quoi qu'elle servait, loi 2?
Mais c'est important de régler avant Noël, hein, parce que dans nos parties du temps des fêtes,
bon,
il y a des familles qui se donnent comme règle de ne pas parler de politique, mais pour ceux qui vont parler de politique, c'est important que le discours général au sein des familles québécoises soit que finalement, ça va mieux aller avec nos médecins et que ce ne soit pas des scénarios catastrophiques. Mais en même temps, on peut quand même questionner que si on recule comme ça, est-ce qu'on aura vraiment des impacts mesurables? T'sais, si tu fais des petits changements dans ta vie, ce n'est pas des impacts aussi grands que quand tu fais des grands changements.
Non, c'est ça. Est-ce qu'on va réussir à avoir plus de Québécois qui vont avoir des médecins de famille?
Ouais,
est-ce qu'on va
ça.
Réussir à en avoir plus par semaine?
Ouais.
On le saura pratiquement jamais.
Bien, Christian Dubé voulait faire des grandes transformations, à part avoir mis sur pied une grosse structure bureaucratique qui est Santé Québec. On n'aura peut-être pas nécessairement des grandes transformations, on va avoir des petits changements. Est-ce que ça va se mesurer en impact concret pour les Québécois? Je pense pas. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que la chicane soit terminée.
Mm-hmm.
Mais j'espère que la CAQ a tiré des grandes leçons de ça. Avant de faire des grandes réformes, assieds-toi avec le monde que ça va impacter et assure-toi que tu as leur aval, que tu as leur collaboration avant.
D'ailleurs, Christian Dubé, on le voit plus beaucoup, hein?
Ouais.
Il est très, très, très plus là, hein? La réforme Dubé, finalement, va s'être faite sans Christian Dubé, puis il n'y aura quasiment plus rien que Christian Dubé voulait qu'il aille dedans?
Bien, c'était un peu son souhait en créant Santé Québec. Hein? C'était de se retirer du paysage public, enlever son visage un peu plus des discussions et travailler en coulisses. Alors, ça fonctionne. Il travaille vraiment en coulisses.
Exactement. On va aller écouter Pablo Rodriguez qui répond à des questions.
Oui, c'était prévu, mais il est près d'une personne, demande de sa famille, qui est très malade et c'est sa place, elle est là.
OK, très bien, merci.
On parle de Monsef Déragé qui n'est pas présent.
Votre équipe a fait circuler une lettre en appui.
Il y a beaucoup de bénévoles qui ont fait circuler une lettre, effectivement.
OK. Oui. Bien, on peut l'interpréter comme étant, si vous vous soumettiez vous-même à un vote de confiance, là, si on fait circuler ça chez les présidents d'associations de circonscription, on en est où dans les signatures?
Je ne sais pas. C'est vraiment une initiative militante, ça circule. Tant mieux. Je l'ai lu ce matin en passant, puis je la trouve très bonne. Je suis d'accord avec la lettre. Et le Parti libéral du Québec, bien, c'est nous, c'est ces militants-là. C'est des hommes et des femmes dans chacun des comtés qui croient au parti, qui croient à un Québec moderne, ouvert, solide sur le plan économique, sur le plan social également. C'est le Parti libéral du Québec.
On parlait d'une quarantaine de signatures sur 125.
Bien, vous verrez, on verra. Honnêtement, pardon?
Quant à l'appui, est-ce que vous avez une inquiétude quant à l'appui de la base militante
non,
à votre égard?
Non, absolument pas.
Des officiers?
Absolument pas.
Est-ce que vous, ou l'un membre de votre équipe, ou toute personne qui a pu contribuer à votre campagne a eu une prise de contact de la part de l'UPAC jusqu'ici?
Pas que je sache.
Merci beaucoup.
On va juste continuer quelques questions.
Journal de Québec, Journal de Montréal. Ce matin, on apprend qu'il y a des militants qui ont déposé une plainte au DGEQ concernant des indemnités de départ que vous avez vous-même signées à des gens qui sont venus faire du bénévolat ensuite pour votre campagne à la chefferie et dont certains travaillent maintenant au Parti libéral du Québec. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Vous dites que tous les militants sont derrière vous, là.
Mais tout d'abord, j'ai répondu à votre question il y a très longtemps. C'est une question...
Aujourd'hui, il y a une plainte au DGEQ qui vient de militants libéraux.
Cette question-là, elle me fut posée plus d'une fois. Et ce que j'ai dit, c'est que lorsqu'un ministre perd son emploi, bien, OK, tout le personnel perd son emploi et ils ont ce genre de rémunération-là normée, prévue, tout est fait, accepté par le bureau du premier ministre, par le conseil privé, par le conseil du trésor, tout fut respecté à la lettre. S'il y a des gens qui veulent aller...
Qui était de vous.
Non, il n'y a pas de montant discrétionnaire. C'est mal compris.
Il y a des mois discrétionnaires.
Si,
vous l'avez même
si
admis.
S'il y a des gens, comme vous dites... Voulez-vous qu'on engage un dialogue ou voulez-vous que je vous réponde?
Allez-y.
S'il y a des gens, comme vous dites, qui ont été au GQ, si l'aplomb c'est infondé, ils peuvent y aller pareil, là. Ils ont le droit. Ça ne change rien.
Donc, c'est ce que vous avez à dire à vos militants qui ont déposé cette plainte?
Ils peuvent y aller, même s'ils étaient fondés, ils ont le droit d'y aller. Mais le Parti libéral du Québec est uni. Et uni...
Quand il ne sait plus quoi dire.
Le Parti est uni. On va arrêter là avec le Parti libéral est uni. Jacinthe Varel, elle ne peut pas se sortir de cette crise-là. Là. Ça n'a aucun sens. Puis là, en plus, on vient d'apprendre que finalement, la lettre que les militants vont remettre, c'est une initiative de l'équipe de Pablo Rodriguez. Et là, mes excuses, mon chef Déragé est au troisième rang en arrière. Je ne l'avais pas vu. Il est caché par les cheveux de Pablo et André Fortin.
Il s'enligne toujours pour ne pas être vu dans la
ouais, dans photo. Hein?
J'ai remarqué qu'il se tient loin. Je ferais pareil à sa place.
Oui, exactement. Il ne pourra pas s'en sortir, Pablo Rodriguez. Ça, je veux dire, la pression est tellement énorme. Là. Je ne peux pas croire qu'il va rester.
La plupart des commentateurs disent qu'effectivement, il va partir. Si ce n'est pas cette semaine ou la semaine prochaine, ça va être dans le temps des fêtes. C'est vrai que la pression est très forte, mais il pourrait s'entêter. Mm-hmm. Ça serait tout à fait légitime et possible qu'il s'entête, qu'il se dise après le temps des fêtes, je vais laisser le temps des fêtes faire redescendre la pression, puis je vais revenir en janvier, puis ça va finir là. Il pourrait très bien le faire et ça ne me surprendrait pas non plus tant que ça, dans le sens où il me semble être un homme quand même entêté dans sa posture de vouloir rester. Là, il faut faire la distinction aussi hein, entre ce qui lui est reproché, ce qui est vraiment questionnable dans cette histoire-là et les tentatives de le faire débarquer. Parce que là, il y a de la magouille aussi dans ça. Il y a des alliances qui se créent, qui étaient derrière, par exemple, la candidature de Carl Blackburn.
Ou Charles Milliard.
Il y a des gens qui ont vécu une grande peine, une énorme peine que Pablo Rodriguez gagne la course à la chefferie en juin dernier. Il y avait beaucoup de monde dans le clan Charles Milliard. Et c'est possible que ces gens-là se réactivent. On l'a vu dans d'autres partis politiques. Mm-hmm. Moi, je l'ai décrié au sein du Parti conservateur du Canada. Il y a des mouvements qui ont revendiqué le départ de Pierre Poilievre, par exemple, au sein du Parti conservateur du Canada. Et on l'a vu aussi dans l'histoire du Parti québécois, des petites cliques qui veulent faire débarquer un chef. Donc, toute cette attitude-là, tous ces leviers-là mesquins qui révèlent le pire de l'homme, qui révèlent le pire aussi de la politique, il faut être capable de le voir là-dedans. Donc, il y a une enquête criminelle de l'UPAC qui est légitime. Il y a les préoccupations de Marois Risky, à qui, moi, j'accorde une très grande confiance.
Moi
c'est
aussi.
Une femme irréprochable qui a toujours eu une carrière politique droite. C'est une avocate fiscaliste. Donc, quand elle émet des craintes, quand elle dit « Wow, il y a quelque chose qui m'a fait
quand
assez peur. »
Quand elle rencontre les enquêteurs de l'UPAC.
Oui. Donc, tout ça, par contre, ça, j'identifie pas ça comme la magouille et des gens qui n'étaient pas derrière Pablo Rodriguez.
Non, parce qu'elle
ça...
avait appuyé Pablo Rodriguez, Marois Risky.
Ben oui, absolument. Absolument. Donc, il y a du très fondé, il y a du très légitime là-dedans, mais il y en a qui profitent de l'occasion pour dire ah, « Voilà notre chance, on le fait débarquer. » Et il faut être lucide. Là,
en effet, ma question, par contre, c'est qu'il ne sera jamais capable de remonter dans l'opinion publique. Donc, non. À un moment donné, les libéraux n'auront pas le choix de se séparer de lui.
Ben oui, parce que du temps de Dominique Anglade, on disait que le Parti libéral était à terre. On disait, suite au départ de Dominique Anglade, on disait « Ça va prendre quelqu'un pour reconstruire ce parti-là. Hey, » on est tous d'accord pour dire qu'on n'est pas en reconstruction ici. Et c'est probablement pas l'homme de la situation pour reconstruire ce parti-là parce que là, il porte une lourde charge. Tout d'abord, il porte la charge d'arriver de chez les libéraux canadiens et on se rend compte que peut-être que les libéraux canadiens, avec toute cette culture-là, ça vient pas aider à reconstruire le Parti libéral du Québec.
Là, ce qui va être intéressant, mettons qu'il va prendre une marche dans la neige puis qu'il décide de partir, là, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai appris il y a 2-3 semaines que le Parti libéral du Québec avait voté une nouvelle disposition dans leur constitution à l'effet qu'on serait plus obligé de tenir une course à la chefferie. Si on arrive, il y a des élections bientôt, là, on n'est plus obligé de tenir une course à la chefferie. Si on sent qu'il faut nommer quelqu'un chef, ben on a ce droit-là maintenant de voter quelqu'un chef. Le Devoir en a parlé hier d'ailleurs. Ouais. Est-ce que... on irait automatiquement en nommant Charles Milliard comme il a terminé deuxième, s'il est intéressé, bien sûr, à revenir maintenant?
Moi, je pense que ça serait une grave erreur, mais en même temps, ça va probablement être le réflexe du Parti libéral du Québec. Ça va probablement être le réflexe aussi des forces qui sous-tendent ce parti-là. Mais je pense que ça serait une erreur parce qu'à ce moment-ci, l'histoire de l'UPAC, Marois Risky qui a congédié sa chef de cabinet pour des soupçons ou des comportements questionnables, les histoires de commissaires à l'éthique d'UPAC font en sorte que ce parti-là, là, il y a un boulet. Et pour... qu'il puisse se reconstruire et reprendre un réel envol, ça prend quelqu'un d'ultra fort, selon moi. Charles Milliard n'a pas d'expérience politique, une expérience au niveau des organisations qui représentent le secteur patronal économique au Québec. Bien sûr, c'est un jeune en qui plusieurs misent. Il reste qu'il n'y a pas la notoriété et la stature, ni le vocabulaire, la culture pour être capable de vraiment... T'sais, pour moi, là, on est rendu, ça prend... une sacrée grosse pointure.
Mais qui l'aurait? T'sais,
un Mario Dumont, par exemple, débarquerait dans ce parti-là. Là, on pourrait dire, OK,
mais il fera pas,
voilà.
Par exemple.
Non, je ne suis pas en train de dire que c'est une possibilité.
Fait que là, en plus de la CAQ à cette heure, le Parti libéral, faut du monde.
Non,
j'adore
ça. Je vous donne l'image, comprenez-vous. Oh, oui, je comprends. Quelqu'un qui débarque complètement extérieur, quelqu'un qui a pas de... Qui a... Parce que, tu sais, Charles Milliard, si on le ramène... va être lié à ces perceptions négatives-là de « Ah, ben là, ils travaillent avec un tel puis une telle, mais eux autres, ils ont participé à écrire la lettre ou ils ont participé. » On va trouver des alliances, ouais. Là, puis on va trouver encore des possibilités, pas nécessairement de magouillage, mais d'alliances qui ont pu faire mal à Pablo Rodriguez. Donc, ça va laisser le parti toujours dans cette perception-là à l'égard du grand public, une perception qui est légitime que, coudonc, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Il y a des crocheries puis des magouilleries. Puis, donc, moi, c'est pour ça que je dis que ça prend un gros nom complètement de l'extérieur pour venir, si on veut
mais
vraiment
reconstruire ce parti. T'es un gros nom de l'extérieur. Et comme t'attends pas de mettre le pied dans ce panier de crabe-là.
C'est ça.
Olivier Primeau.
Ouais, mais j'avais ça en tête. Ça aussi. Ben oui. Oh oui.
C'est ça. Veggie day every day. Hey, on fait le tour parce que tu en as parlé justement tout à l'heure du Parti conservateur du Canada. Michael May qui quitte, ça met le Parti libéral à un député de la majorité. Ça n'a pas de sens de prendre des photos avec Pierre Poilievre la veille et de sacrer son calme le lendemain quand on sait qu'on revient juste le 26 janvier qu'on pourra se tenir loin de nos anciens amis.
Hey, c'est de l'arrogance à son apogée.
Épouvantable.
Hein? Député de Markham-Unionville, donc dans la grande région de Toronto. Michael, toi, tu dis « mais », c'est-tu vraiment « mais » Moi, je dis «
mais ». Moi, Max me dit qu'on dit « mais ».
En tout cas, ça s'écrit «
mais ». En tout cas,
mais
Michael,
oui,
de son prénom.
On va l'appeler le député de Markham-Unionville, ou on va on va l'appeler le traître. On peut bien l'appeler le traître parce que mercredi soir, il célébrait avec le Parti conservateur du Canada. Il a pris des photos avec Pierre Poilievre et sa conjointe.
Mon Michael.
Il a dansé avec ses collègues du Parti conservateur et le lendemain, il traversait la Chambre des communes et il annonçait qu'il se joignait à Mark Carney. C'est une grande trahison pour son parti, mais encore plus pour les électeurs. Ben imaginez,
D'autant plus que c'est un nouveau député. Là. Il a commencé là, en avril.
Il a commencé, c'est une toute jeune carrière politique. Et imaginez, avant le mois d'avril, là, on était en campagne électorale fédérale, les gens qui étaient pro-Mark Carney, les gens qui étaient pro-Pierre Poilievre, il y avait une profonde différence, une profonde division de vision pour l'avenir du Canada, puis aussi l'avenir des négociations avec Donald Trump. Là, on se disait, c'est qui l'homme qui va faire face à Donald Trump? Alors, pour les électeurs qui ont nommé un conservateur...
Ça va bien dans les négociations avec Donald Trump?
Oui.
Ben
ouais,
ça va vraiment bien.
On voit que les Canadiens ont fait le bon choix. Non, mais c'est ça. Alors, c'est une énorme trahison, oui, envers son parti, mais la pire trahison, c'est envers les électeurs qui voulaient mettre un conservateur en poste dans cette circonscription-là. Quelques mois plus tard, sont pognés avec un député qui ne représente pas leur voix majoritaire, qui était d'avoir un conservateur. Ça, c'est grave. Et là, on se retrouve à un député de la majorité. Donc là, en ce moment, le Mark Carney, il a vraiment les coups des franges pour passer un beau temps des fêtes au téléphone puis à tenter de faire quelques négociations. Ça prend un député de plus qui joint les rangs du Parti libéral et il y aura un gouvernement majoritaire. Et là, c'est pas juste les citoyens de la circonscription de Markham qui sont trahis.
C'est tous les
Canadiens. Parce qu'à place d'avoir une possibilité de renversement d'un gouvernement minoritaire dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, bien là, on se retrouve avec un gouvernement majoritaire ou on va se retrouver avec un gouvernement majoritaire, on va tous être pris là-dedans alors que c'était pas notre volonté.
Puis ça va arriver, là, c'est pas un si, c'est un quand.
Ben oui.
Mettons que c'est pas avec la partielle, ça va être un autre qui va changer à un moment donné. Ou ça va arriver. Le gouvernement Carney va être majoritaire dans quelques mois. Là.
Ben oui. Puis ça en dit beaucoup aussi sur notre premier ministre parce que, écoute, vous allez me dire, t'es bien trop idéaliste. Je rêve peut-être à une utopie, mais en politique, là, je m'attends à tellement de hauteur, d'honneur, de noblesse de la part de nos élus et de la part de Mark Carney, d'accueillir un député comme ça qui traverse la Chambre, s'en réjouir, se frotter les mains presque à la Montgomery Byrne, dans Mr. Byrne dans les Simpsons. Non, mais j'avais l'impression de voir ça, moi, hier, quand je le voyais sur la scène se frotter les mains et être donc bien content. T'es donc bien content de quoi exactement? Oui, tu grossis tes rangs libéraux, puis tu te rapproches d'une majorité. Mais quelle sorte d'image tu renvoies à tes Canadiens? Parce qu'il aurait pu aussi dire, écoute, Michael, tu veux quitter les conservateurs, c'est ton choix, mais va-t'en indépendant. Là. Moi, je te prends pas. Il aurait pu dire, non, la porte est fermée, là, tu sais. T'es un conservateur, t'as fait campagne contre moi il y a quelques mois, et de toute façon, moi, je veux pas trahir les Canadiens de ta circonscription, je veux pas trahir l'ensemble des Canadiens. Non, il y a pas cette hauteur-là, il y a pas notre grand banquier international extraordinaire avec un magnifique CV. Au niveau du code d'honneur, on repassera, hein?
Excellent.
C'est Mark Carney, vous comprenez, je l'ai mis en anglais parce que c'est pas parler français. Bon, hey, on termine cette chronique-là. On termine cette chronique politique avec toi, Jacinthe Varel. Je te pose la question suivante. Est-ce possible de rester chef d'un parti quand tu as perdu les élections? Parce que là, deux personnes qui traversent. Il y aura le vote de confiance en mois de janvier à Pierre Poilievre. Fait que même s'il a fait des scores impressionnants pour le Parti conservateur, du jamais vu, je le sens, ça s'élève plus que jamais.
Moi, je le sens en contrôle de ses affaires, mais faut pas négliger qu'il y a une mouvance anti-Pierre Poilievre qui est très présente dans les médias. On le sait, les figures soi-disant conservatrices dans les médias sont des figures anti-Poilievre. C'est pas compliqué, là. Faites le tour. Les figures qui se disent conservatrices dans les médias sont anti-Poilievre. Et au sein même du parti, il y a une mouvance qui regrette toujours que Jean Charest n'ait pas accédé à la chefferie. Jean Charest est toujours disponible pour faire de la politique,
peut-être. Une mouvance au Québec, évidemment.
Une mouvance au Québec, effectivement. Alors, c'est sûr que ça fait mal. En politique, les magouilles et le les tentatives de tasser un chef sont fortes et surtout quand les médias se mettent de la partie et n'identifient pas ça. Moi, je suis une des rares là, qui le nomme, puis je vais le nommer tant aussi longtemps que je vais avoir un micro devant moi.
Mais en effet.
C'est important de le nommer.
On voyait ces mouvances-là avant seulement dans les idéologies plus de gauche, puis je pense au PQ. Ouais. Mais là, ça commence justement à s'étendre là, à la grandeur de la politique. Là.
Oui. Alors, ce sont des gens qui font passer leur intérêt personnel d'abord et avant tout, intérêt personnel de tasser Pierre Poilievre ou de faire partie de l'équipe d'un éventuel autre premier ministre parce qu'ils savent qu'ils ne seraient pas dans l'équipe proche de Pierre Poilievre, mais ils seraient peut-être une équipe de Jean Charest. Donc, c'est triste. T'as raison, ça se peut très bien qu'il se fasse tasser, mais pas pour les bonnes raisons. Et ça, c'est tout le monde qui s'y perd au bout du compte.
Hey, Pablo Rodriguez vient de se faire ovationner. Tout le monde, les deux mains, ça clapait.
La presse canadienne, vous avez dit
c'est dommage, on a raté l'ovation.
Je ne sais pas quelle réponse lui a valu une telle ovation.
Il va se battre pour le Québec. Il a déclaré qu'il il avait eu quelques difficultés dans les dernières semaines. Je dirais qu'il y a peut-être des difficultés.
Mais qu'il allait se battre, puis ça, puis là, ses collègues sont mis à l'applaudir.
Jacinthe plus capable de ça. Il y en a là-dedans qui ne veulent plus rien savoir de Pierre Poilievre. Puis là, sont en arrière.
De Rodriguez.
Premièrement, on voit qui se met de l'avant à ses côtés, bien en évidence, et qui cherche même à se cacher derrière un autre. Il y en a qui font vraiment exprès, on le voit, ils se tassent derrière.
Enrico essaye, mais il est trop grand, on le voit pareil.
Message à Monsef Deragi, prochaine fois derrière Enrico Ciccone, c'est sûr qu'on ne voit pas.
C'est ça. Mais c'est sûr que derrière cette apparence d'alliance-là, il y a des gens qui se posent des questions, puis il y a possiblement des gens qui sont contre lui. Mais c'est difficile de croire que Pablo peut passer au travers ça parce que là, il y a une machine qui est enclenchée contre lui. Ça va être...
Une machine à l'interne.
Oui, c'est ça. Une machine à l'interne qui a des alliances dans les médias aussi parce que c'est toujours ça quand tu as de l'écho dans les médias puis que là, les gens ouvrent les sacs de popcorn puis regardent ça puis sont bien, bien excités avec ça. Mais tu sais, l'enquête criminelle de l'UPAC, ça traîne aussi tous les vestiges puis l'historique du Parti libéral du Canada. On se rappelle qu'en 2014, il y a eu une enquête de l'UPAC puis qui n'a jamais mené à des arrestations, il y a eu des arrestations, mais
Nathalie
finalement...
Normandon, mais il n'y a pas eu d'accusation.
Il n'y a pas eu d'accusation, on a laissé tomber parce que ça a pris trop de temps, les procédures, mais il reste que... Il était encore question en 2014 d'utilisation de prête-nom au Parti libéral du Canada. On n'a jamais été jusqu'au bout de cette utilisation de prête-nom. Et étrangement, en 2025, on revient encore avec ces possibilités d'utiliser des prête-noms. Alors, c'est sûr que le parti est entaché. Alors, tu changeras de chef comme tu veux, là. C'est pour ça que je vous disais, ça prend un grand ménage aussi. Oui, si Pablo part, c'est une bonne chose, mais un grand ménage. Il faut entendre parler là, qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. Marois Risky avait commencé le grand ménage, mais là, elle a été tassée. Elle n'a pas pu continuer.
C'est ça.
Mais imaginez une Marois Risky qui reviendrait.
Si Marois Risky revient comme chef,
il
y a de fortes chances que les libéraux gagnent les élections.
C'est
la politicienne la plus populaire au Québec.
Parce qu'il faut toujours penser aux électeurs d'abord et avant tout. Et en ce moment, les électeurs sont craintifs. Ils n'ont rien pour se raccrocher à ce parti-là. Et ça prend gros pour se raccrocher à ce parti-là. Et moi, je reviens, Marois Risky, elle a une intégrité irréprochable. Il y a des gens qui ont tenté de la salir là, parce qu'elle a été à l'encontre de Pablo Rodriguez ou à l'encontre d'une proche. En fait, c'était même pas à l'encontre de Pablo Rodriguez, c'était à l'encontre d'une grande amie de Pablo Rodriguez, une alliée. Pablo Rodriguez qui l'avait placé là, possiblement aussi pour avoir une oreille et des yeux très près
d'une
possible rivale. Parce que Marois Risky, elle est identifiée comme la chef idéale pour ce parti-là par plusieurs commentateurs, plusieurs citoyens aussi qui regardent la scène politique. Elle avait dit « Mes enfants sont trop jeunes, ça ne m'intéresse pas pour le moment », mais ça reste que c'est une potentielle rivale. Et les potentiels rivaux dans des partis politiques sont toujours ceux qui sont les plus tassés, ciblés, attaqués.
Gardons nos ennemis près de nous. Jacinthe Amarelle, merci beaucoup pour cette excellente chronique politique. On t'écoute demain matin, 99.5 Montréal, avec Rémi Villemur. Bravo pour vos excellents chiffres, soit dit
merci
en
vous
passant.
Aussi.
Merci beaucoup. On fait une courte pause par la suite, on revient avec l'essentiel de l'actualité avec Max Larouche. On va notamment revenir sur cette nouvelle de dernière minute, la Fédération des médecins omnipraticiens qui a peut-être fini de présenter son webinaire à cette heure-là, même si on me disait à l'interne que ça peut durer plus longtemps. Je pense qu'avec les bonnes nouvelles qu'ils ont eues, on n'a pas trop posé de questions et on s'est tapé dans les mains. Mimosa pour tout le monde. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102.1. C'est Marceau le matin. Marceau.